entre Limbouima et au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. L'inspection provinciale de pharmacie dans la province du Katanga a scellé mardi 11 février dernier 3 dépôts pharmaceutiques non viables. L'inspecteur provincial de pharmacie a reproché à certains de ces dépôts de conserver des médicaments dans une salle humide dont la toiture suinte et d'autres dépôts qui conservent les médicaments à même les sols. Cette situation s'ajoute à d'autres problèmes qui se posent dans le secteur de fabrication, importation, conservation et commercialisation de médicaments en République démocratique du Congo. Que proposez-vous pour mettre de l'ordre et améliorer la gestion de ce secteur? Nous en parlons avec M. Clément Outeji, chef de division à la 3e direction au ministère de la Santé. Gir Lungembo assure la coordination et réalisation de cette émission mise en onde par Paul Badeniama. Pierrot Elameji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Que faudrait-il pour mettre de l'ordre dans le secteur de fabrication, importation, commercialisation de médicaments en République démocratique du Congo? C'est la question au centre de notre échange. À ce jour, la situation est partie de Lubumbashi où l'inspection provinciale de pharmacie a scellé 3 dépôts. C'était le mardi 11 février dernier. Les dépôts pharmaceutiques ont été scellés pour cause de non-viabilité. Ils le reprochent et aussi la mauvaise conservation de médicaments dans une salle humide. Des fois, la toiture qui suinte, mais aussi d'autres qui exposent des médicaments à même les sols. Nous en parlons avec vous et notre invité qui bientôt fait son entrée dans ce studio. Mais nous avons aussi en ligne des auditeurs comme Freddy qui nous appelle de Lubumbashi au Katanga, Mathieu qui est à Kananga au Kassai occidental et Alphonse qui est à Aru en province orientale. Tout à l'heure, nous allons vous accorder la parole au 081 890 69 49. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comme je venais de vous le dire, nous avons dans ce studio M. Clément Outeji, chef de division à la 3e direction au ministère de la Santé. C'est la direction de la pharmacie. M. Clément Outeji, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons avec les auditeurs, la problématique de la fabrication, l'importation, la commercialisation, mais aussi la conservation des médicaments sur l'ensemble du pays. Nous sommes partis de Lubumbashi où l'inspection provinciale a procédé à sceller 3 dépôts pharmaceutique pour cause de non-viabilité. Alors nous allons essayer de nationaliser ces débats autour de la question qui touche aux médicaments. Mais bien avant de revenir sur le travail sur terrain, parlez-nous un peu de la 3e direction du ministère de la Santé. Quelles sont les prérogatives de la 3e division?
Vous voulez parler de la 3e direction?
De la 3e direction plutôt.
La 3e direction, c'est une de direction centrale du ministère de la Santé qui a comme mission principale la régulation du médicament et d'autres substances comme les désinfectants et autres produits de santé. Donc à ce titre-là, nous sommes organisés en division. Nous avons 6 divisions. Il y a une division qui s'occupe des aspects liés aux inspections des établissements pharmaceutiques, c'est-à-dire l'octroi des ouvertures, l'octroi et les ouvertures de, des établissements, entre par établissements, pharmacies, dépôts et laboratoires. Il y a une direction qui s'occupe des aspects liés à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments et tout ce qui est aspect d'importation. Il y a une division qui s'occupe des aspects liés au contrôle des stupéfiants. Il y a une direction qui s'occupe des aspects liés aux produits cosmétiques. Il y a une direction qui s'occupe, une division qui s'occupe des aspects liés à ce qui est plantes médicinales, et une direction qui est, une division qui est la mienne, qui s'occupe des aspects liés à l'assurance et au contrôle des qualités de tous de médicaments et autres biens de santé qui doivent être dans les giron de la direction de la pharmacie.
Et pour revenir effectivement à votre division, la division qui s'occupe de la qualité, y a-t-il aujourd'hui en RDC, que ce soit pour un médicament qui est importé ou celui qui est fabriqué sur place, y a-t-il un laboratoire indépendant de laboratoire qui fabrique des médicaments, qui fait la contre-expertise pour dire effectivement ces médicaments répondent aux normes et on peut le mettre en circulation?
Oui, bon, je pense que depuis beaucoup de temps, les gens épiloguent sur la question, mais ils ne sont pas seulement informés. C'est vrai qu'au niveau du pays, nous n'avons pas, au sein du ministère de la Santé, comme dans tous les pays du monde, un laboratoire qui dépend du ministère de la Santé. Mais néanmoins, depuis 1985, pour pallier à cette carence-là, le ministère de la Santé a cru bon d'agréer 4 laboratoires pour se faire dans le laboratoire de l'université de Kinshasa, de la faculté de pharmacie qu'on appelle la Comeda, un laboratoire privé qu'on appelle la Coquine. Il y a aussi un laboratoire qui est le fruit de la coopération belgo-congolaise, mais la coopération belge s'est retirée, celle de la FAKI. Et en fait aussi, l'OCC, outre sa mission de contrôle de qualité à l'entrée, est aussi lié à nous dans les aspects de contrôle des qualités. Voilà, en fait, nous sous-traitons ces domaines auprès de ces 4 laboratoires.
Mais par rapport aux médicaments aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, si nous sommes partis du débat, par rapport aux dépôts qui ont été fermés à Lubumbashi, peut-être la situation peut être aussi la même ailleurs, on va suivre avec nos auditeurs. Comment se rend-on compte sur terrain, vraiment, qui ceux qui s'engagent à exploiter le secteur pharmaceutique respectent vraiment les normes, parce que des fois, on voit quel type de si on peut utiliser les termes entre guillemets, les pharmacies que nous avons dans nos cités, on voit comment les médicaments sont conservés. Mais alors, dans toute la chaîne, comment au niveau de la direction, on intervient jusqu'au niveau du consommateur, que ce soit pour les médicaments qui soient importés, comment on agit un peu pour contrôler tout ce qui se passe jusqu'au niveau de nous qui partons chercher ces médicaments dans les pharmacies?
Là, c'est vraiment une très bonne question parce que là, vous nous donnez l'occasion que nous puissions nous exprimer sur votre radio qui a une bonne audience pour que les gens comprennent une fois pour toutes que le médicament, ce n'est pas un bien courant. Ne prends pas les médicaments qui veulent les prendre. Doit prendre le médicament celui qui est malade, celui qui est dans l'état de les prendre, et cet état doit être constaté par une personne spécialiste qui est le médicament, et dans les cas des médicaments anodins, généralement le pharmacien ou l'assistant pharmacien qui est à l'officine peut aider quelqu'un dans le cas de ce que nous appelons le médicament de comptoir. Mais malheureusement, ici chez nous, nous avons un vrai problème, c'est que les pharmacies, entre guillemets, comme on les appelle, pullulent comme les frères Marguerite dans toute la ville. Et vous serez peut-être surpris que je vous donne les chiffres que aujourd'hui, avant qu'il y ait ce principe de décentralisation au niveau de l'ouverture, parce que il y a un décret sur la décentralisation, et en vertu de ce décret-là, les prérogatives d'ouverture des établissements comme les pharmacies relèvent maintenant de l'autorité provinciale. Mais jusqu'en 2012, à la fin de 2012, je crois que si vous roulez rien que sur la commune de Matongé, la commune de Kalamu, vous trouvez des milliers de pharmacies, même plus de des centaines de pharmacies. Mais si je peux consulter la liste qui est au niveau national, si toute la ville de Kinshasa, le ministère de la Santé n'a officiellement autorisé au vu de ces au regard de ces procédures, qui aux entours de 100 pharmacies seulement.
Une centaine.
Une centaine de pharmacies. Donc, tout ce que vous voyez comme pharmacie dans la ville de Kinshasa, qu'on appelle pharmacie, c'est-à-dire colorée avec une croix verte, avec des écrits pharmacie, elles sont là par la volonté d'autres administrations qui sont l'administration de la santé. Et c'est là le problème qui est souvent décrié par le ministère de la Santé, le problème décrié par la Corporation des pharmaciens. Mm-hmm. Mais malheureusement, on n'est pas écouté parce que, imaginez-vous aujourd'hui, le matin, quelqu'un estime qu'il a 4 000 dollars, il peut faire comme affaire la pharmacie. Demain, il commence à peindre, après-demain, il amène les médicaments, et au quatrième jour, il ouvre. Mais qu'est-ce que nous voyons au cinquième jour? Au cinquième jour, nous voyons une administration qui perd l'environnement, qui peut être les affaires économiques, venir auprès de ce monsieur, commencer à lui exiger des taxes. Alors vous voyez, quand un malfrat, vous le mettez dans des positions, vous lui demandez des taxes, il se considère maintenant comme étant irrégulier. C'est ça le vrai problème. Et c'est que cela fait que, au fil du temps, nous avons un nombre impressionnant de pharmacies dans nos villes, tel que ce nombre est tellement important que les ressources humaines en inspection ne peuvent pas arriver à faire de l'inspection. C'est ça le vrai problème. Voilà. Parce que vous parlez aujourd'hui de l'inspection du Katanga. L'inspection du Katanga est en mesure de contrôler les dépôts pharmaceutiques. Parce qu'il se compte au bout des doigts. Et même là, la rigueur, il y a une rigueur donc pour ouvrir. Mais lorsqu'on ouvre une pharmacie, nous avons imaginé la ville de Kinshasa, nous en avons 400. Et nous en avons plus de 4 000. L'inspection urbaine de la pharmacie de la ville de Kinshasa, si mes chiffres sont bons, ne dépasse pas plus de 20 pharmaciens là-bas. Alors vous voyez un peu toute la problématique qu'il y a dans ce domaine.
On pourra revenir à vous, l'échange est vraiment intéressant. On va aussi écouter les témoignages des auditeurs, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur milieu, mais ce qu'ils proposent aussi pour améliorer. Nous avons Freddy à Lubumbashi, Mathieu est à Kananga et Alphonse à Arou en province orientale. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081 890 4969.
Parole aux auditeurs.
Freddy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre invité, maître Freddy Mayeng depuis Lubumbashi.
On vous écoute, maître.
Je salue la mesure de la fermeture de cette pharmacie. Notre état vient de se réveiller. Quand bien même c'est un réveil tardif, mais c'est un réveil. Nous sommes en train de saluer parce que, comprenez monsieur le journaliste, la situation est très préoccupante. Vous comprenez que vous savez que la santé n'a pas de prix. Mais il arrive à un certain moment où nous ne savons plus à quel sens il faut se vouer. Il y a les pharmacies sur toute l'étendue de la ville comme de champignons. Je ne sais pas si c'est ça que l'invité va appeler pharmacie ou quoi. Et même des pharmacies qui utilisent les gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, des notions même de la pharmacie, ils n'ont pas des notions même de l'infirmerie, donc c'est juste du commerce. Alors, nous sommes en train d'observer des situations qui nous mettent à mort. Vous savez qu'il n'y a que la santé qui est parmi les indicateurs de l'État qui sont les plus marquants parce qu'un État qui se respecte doit avoir sa population en bonne santé. Nous avons remarqué qu'il y a les pharmacies qui poussent, mais nous nous posons nous aussi des questions. Pourquoi des pharmacies, autant de pharmacies, et au fur et à mesure, aussi longtemps que nous avons autant de pharmacies, les maladies, les épidémies ne cessent pas. Pourquoi ça? Tout simplement parce que nous avons remarqué que, comme l'a dit l'invité, le circuit de la production à la consommation, c'est un circuit qui devient assez compliqué, c'est un circuit assez complexe. Complexe, c'est-à-dire quoi? Si vous avez suivi bien l'invité là, c'est comme si lui, il se trouve dans le ministère de l'éducation, mais il y a d'autres services qui contrôlent les pharmaciens. C'est ce qui amène qu'il y a ce désordre qu'il y a là. Et quand les services compétents, quant à moi, c'est le service compétent, les services qui sont attachés, n'est-ce pas, au ministère de la Santé, quand les services compétents viennent voir ces gens-là que nous appelons aujourd'hui pharmaciens, ces gens-là, ils sont en train de brandir, n'est-ce pas, documents offerts, les documents qu'ils ont eu de l'environnement, de tout ça, tout ça. Et la conséquence, c'est la population qui en pâtit.
Mm-hmm.
Je peux encore mettre l'État. L'État peut encore être responsable dans le sens qu'il privatise tout. Est-ce que ne serait-ce pas mieux que l'État fasse de sorte que les médicaments qui sont produits et qui sont consommés par sa population passent par les hôpitaux, n'est-ce pas, les établissements sanitaires publics? Parce qu'ici, c'est Nord Lubumbashi, par exemple. Nous avons l'hôpital général Sengo. Mais si tu regardes la petite pharmacie de cet hôpital, là où il y a les experts, tu vas voir que c'est comme si l'État ne s'intéresse même pas à ça. Mais en dépend, l'État devrait s'exposer à un certain niveau, faire de sorte que tout passe par là, parce que les contrôles risquent d'être assouplis. Mmh. Une autre solution que je peux proposer...
Oui, allez-y rapidement, Freddy, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ligne.
Oui, je peux encore proposer à l'État... d'essayer un peu de donner de l'emploi aux médecins. Parce que ceux qui travaillent, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre. Ce sont les médecins qui ne travaillent. Ce sont les médecins qui ne se retrouvent pas dans l'ordre des médecins. Ils font des petites ordonnances et l'homme et le malade, comme il est malade, il est obligé d'aller à n'importe quelle pharmacie sans respecter le circuit. Et enfin, j'aurais souhaité que les malades, nous les Congolais, nous puissions prendre conscience de notre état de santé. La santé n'a pas de prix. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Freddy. Je retiens quatre choses. D'abord, il y a un paradoxe, le fait qu'on multiplie des pharmacies ou bien soit des boîtes qui vendent des médicaments et aussi autant des maladies. Et l'inquiétude, vous l'avez soulevée, c'est par rapport à qui, en principe, doit gérer les secteurs. Quand la personne qui ouvre se rend compte qu'il a aussi documents d'autres services de l'État, il brandit ces documents, ça devient difficile de pouvoir contrôler. C'est ce que vous avez proposé aussi, qu'on puisse avoir un circuit officiel de distribution des médicaments. Pourquoi ne pas avoir des dépôts pharmaceutiques rattachés aux hôpitaux publics pour permettre à ce que les médicaments soient ainsi distribués en respectant les normes? Vous avez souhaité que le médecin soit assez engagé. Quand des médecins se débrouillent pour prescrire des médicaments à la cité, c'est que la population recourt n'importe où pour pouvoir se ravitailler. Et vous avez enfin appelé la conscience de la population pour savoir où est-ce qu'il faut aller chercher le médicament. Merci beaucoup, Freddy. Mathieu, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Pierrot, bonjour l'invité.
On vous écoute,
d'abord,
Mathieu.
D'abord, l'invité que nous applaudissons, puisqu'il est là, il est habilité à nous répondre dans des questions que nous allons lui poser.
Mm-hmm.
D'abord, pour d'entrée de jeu, j'avais voulu dire que les Katanga aujourd'hui, s'ils se réveillent de fermer ce pharmacie-là, c'est avec un grand retard. La population a été déjà intoxiquée. Ça, c'est un trait que nous pouvons donc prendre avec beaucoup de considération. Bon, l'actualité maintenant, comme notre invité est là, j'ai suivi comme les autres qu'un important lot de médicaments paracétamol de fabrication du laboratoire Zenufa à Kinshasa, c'est-à-dire lot 13T/88, a été déclaré impropre à la consommation, causé par un élément appelé soporifique, où d'après les premiers tests, celui qui consomme ce médicament aura à dormir comme un mort dans 24 heures. D'abord, je remercie les autorités sanitaires du Bas-Congo, spécialement monsieur le médecin inspecteur de cette province qui a découvert cette cabale montée contre la population. Un énigme qui devrait causer plusieurs morts, monsieur Pierrot, à cause du rage.
Voilà, oui, Mathieu, s'il vous plaît, pour vous aider à comprendre, hein, je crois bien que vous avez suivi, cette information a été diffusée sur les antennes des Radio Capi. Il y a eu plusieurs enquêtes au niveau du ministère de la Santé, nous n'avons pas encore des résultats. D'ailleurs, sur place, nous avons un communiqué ici, dans cette émission du laboratoire Zenufa, qui dit que après expertise au niveau de ce laboratoire, ils n'ont pas confirmé effectivement que ces paracétamol puisse contenir cette substance, mais ils s'en remettent aussi aux autorités au niveau du ministère de la Santé, parce qu'il y a des enquêtes, on ne saura pas faire un débat autour de ça. C'est une question, une info qui a été diffusée, aussi récupérée dans la presse écrite. Mais attendons tous ensemble les enquêtes qui ont été initiées au niveau du ministère de la Santé, et ensemble avec le laboratoire Zenufa, on pourra aussi revenir prochainement sur les antennes des Radio Capu pour vous dire qu'est-ce qui se passe. On ne saura pas entrer dedans parce que c'est trop scientifique déjà. On ne saura pas faire le débat autour de cette question. Il y a des enquêtes. Quand il y a des enquêtes, nous tous, nous en tenons à ces enquêtes pour avoir la suite, Mathieu. Voilà, un peu ce qu'on pourrait bien vous répondre par rapport à cette question. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir appelé des Kananga. Alphonse, vous êtes à Arou en province orientale, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous avez suivi les uns et les autres. Oui, oui, la problématique pour nous aujourd'hui, ce sont les pistes et des solutions pour que nous puissions assainir les secteurs et que les secteurs vraiment puissent rendre service à la population comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez suivi notre ami de Lubumbashi qui a proposé autant de pistes et des solutions, mais pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer la gestion du secteur?
Tout à fait. Avant de donner mes propositions, je voudrais commencer par ceci. Vous connaissez que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres, donc beaucoup plus vivent en campagne. Alors ces pauvres-là sont déjà qui ne mangent pas bien, qui ne sont pas scolarisés, mal vêtus, qui boivent même l'eau des ruisseaux, qui dorment dans des conditions vraiment inhumaines. Bref, un monsieur ou une dame qui vit en dessous du seuil de la pauvreté peut tomber malade. Alors, une fois malade, maintenant, comment et où va-t-il se procurer les médicaments pour arracher la guérison? La solution, c'est simple. Cette personne-là va recourir aux plantes ou racines ou autrement va voir les traducteurs praticiens et la dernière solution de recours, c'est la pharmacie. Et Pierron, à l'intérieur de notre pays, comme disait un des confrères qui intervenait, celui de Lubumbashi, il avait dit que dans les pharmacies, vraiment, on trouve n'importe qui. Par exemple, chez nous, on peut voir quelqu'un qui n'a même pas terminé l'école primaire, on le voit en train de vendre, en train d'acheter. On voit même certains vétérinaires dans les pharmacies, vraiment, où allons-nous avec cette situation? Pierrot, les pharmacies sont devenues, au moment où nous parlons, des lieux où on va officiellement la mort, et c'est là sous la barbe des services attitrés. Alors, nous voulons rappeler à nos dirigeants que la population congolaise a droit à la vie et a aussi droit à la santé. Alors, l'État doit assurer sa responsabilité. Alors, comme solution, premièrement, je voudrais qu'on puisse sensibiliser la population sur les bienfaits et les méfaits d'achat des médicaments dans les pharmacies locales. Deuxièmement, il faut recenser et pour faire le suivi et l'évaluation deux fois, à mon avis, par an. Donc, les pharmacies par des inspecteurs, malheureusement, que nous ne voyons pas de notre côté ici. Troisièmement, il faut former et informer les dépositaires et les revendeurs de produits pharmaceutiques, parce que c'est le secteur où c'est tout le monde qui veut l'apporter, alors que c'est vraiment vital. Quatrièmement, il faut bien contrôler l'entrée des médicaments en dotant l'OCC des laboratoires qu'il faut pour bien jouer son rôle. Cinquièmement, Pierrot, je trouve qu'il faut punir les détenteurs de pharmacies commerciales qui ne respectent pas les normes requises pour la conservation, l'achat et la vente de la manière la plus sévère possible. Et sixièmement, il faut améliorer le social du Congolais, bien payer les médecins, multiplier le nombre d'hôpitaux et les ravitailler en médicaments afin que le pauvre paysan accède aux soins. Ça risque et pour tous. Et je voudrais terminer par deux petites questions à poser à notre invité. La première est de savoir qui peut se rendre en pharmacie et dans quelles circonstances. Et la dernière, qu'est-ce qu'il faut pour l'ouverture d'une pharmacie? Merci Pierrot.
Merci beaucoup Alphonse. Vous avez fait la remarque par rapport à la situation sur terrain, mais plusieurs pistes de solutions. Il faut d'abord sensibiliser la population. Il faut contrôler sérieusement, suivi et contrôle par les inspecteurs de ce qui se passe sur terrain. Il faut former et ceux qui sont les dépositaires de dépôts pharmaceutiques pour la conservation de médicaments. Il faut contrôler les médicaments qui entrent sur le sol congolais. Il faut punir ceux qui violent la loi par rapport à ces domaines de pharmacie, mais aussi équiper les hôpitaux, les multiplier, les équiper en médicaments pour même à mettre à ce que la population puisse être servie dans les hôpitaux qu'elle allait acheter les médicaments à la cité. Vous avez demandé à notre invité pour savoir qui doit en principe se rendre dans une pharmacie pour chercher un médicament. Ça a été dit à l'introduction. Et la deuxième question, ce sont les normes hein, pour pouvoir ouvrir une pharmacie. Merci beaucoup. Nous allons écouter des auditeurs. On revient à notre invité pour placer un mot et commenter ce que les auditeurs ont dit. On écoute Franck qui est en dehors du pays, à Vienne. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à l'invité et aussi bonjour à tous les amis avec qui on s'échange.
On vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer la gestion de ces secteurs?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Déjà, la mesure de fermer cette firme pharmaceutique, moi, c'est salutaire, pas seulement pour moi, mais pour tous les Congolais qui aiment leur pays. J'épouse les opinions de notre invité au studio. Sans vraiment m'éloigner de lui, je dois aussi rappeler, évoquer un fait. Nous savons que dans notre pays, il y a des dysfonctionnements manifestes. Et il y a l'absence de l'État dans le domaine de la santé. Ainsi, ce réflexe de la débrouillardise à la congolaise fait que chacun se permette parfois d'aller ouvrir sa pharmacie sans respecter certaines normes appropriées pour cette matière. Quoi. Et dans certains villages, moi je connais personnellement des villages avec 1000 habitants, 1500 jusqu'à 2000, sans aucune structure en soins primaires. Et dans la plupart des cas dans ces villages, on recourt à certains marchands pour l'achat des médicaments. Mais Monsieur Pierrot, quand par exemple dans un village de 1500 habitants, ils n'ont aucun dispensaire, aucune autre structure, il y a un marchand qui ne dépanne en médicaments. S'il y a un cas de maladie, l'hôpital est par exemple à plus de 50 à 60 kilomètres, on va recourir à qui? On recourt, le réflexe est simple, on recourt aux marchands les plus proches. Mais là, le danger est aussi à ne pas négliger. Qui contrôle maintenant la qualité des médicaments que ces marchands font couler? C'est à ce niveau-là que nous avons toujours dit qu'un pays qui fonctionne sans rigueur de la loi, un pays qui fonctionne sans normes, c'est un pays qui aura des gens, des malades. Les suggestions, il y en a beaucoup. Il faut commencer d'abord par remettre de l'ordre dans les domaines sanitaires. Il faut renforcer le contrôle technique dans ces domaines. Mmh. Et on ne peut pas non plus demander de renforcer le contrôle technique sans toucher des questions parfois épineuses des salaires. Ces infirmiers qui doivent travailler dans ces domaines, ces pharmaciens, ces médecins, combien gagnent-ils le mois? Comment vous allez demander aux gens d'appliquer des contrôles techniques s'ils ne sont pas bien rémunérés? Et aussi l'État doit se mettre à sa place. Combien de collectivités avons-nous au pays là-bas? Combien de secteurs? Combien de grands villages? Des villages qui se développent en centre urbain sans aucune structure de secours médical. Et ces gens-là, quand ils sont malades, à qui doivent-ils recourir? Donc, on peut organiser des émissions ici. C'est bien de décrire. Nous le voulons bien. Nous voulons bien que ça aille de l'avant. Mais est-ce que notre État se met-il d'abord à sa place pour percevoir la misère de sa population, pour comprendre que cette population a besoin d'être assistée quand elle est malade? Cette population a besoin d'être consultée par de bons médecins. Cette population a besoin d'avoir des dispensaires, des centres hospitaliers. Est-ce que nous avons déjà installé tout cela dans tous les milieux? On doit pas seulement se référer à Kinshasa. Moi, je peux vous donner les noms de certains villages. Kibouanga, Bakata, là-bas, aller vers les feux forts de Bandundu. Il y a des grands villages avec plus de 1500 habitants, sans pharmacie, sans dispensaire, sans aucun secours médical. Et ces gens-là, s'ils sont malades, à qui doivent-ils recourir? L'hôpital peut être à plus de 50 kilomètres. Et en cas de maladie la nuit, quelle sera la solution?
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Franck. Moi, au-delà.
Il y a beaucoup de défis.
Il y a beaucoup de défis. Voilà, il faut le relever.
poser le problème dans son intégralité.
Voilà, merci beaucoup. Le problème dans son intégralité, c'est quand on parle du contrôle, vous l'avez évoqué, le contrôle technique, mais il faut aussi assurer les conditions de vie de ceux qui doivent assurer ces contrôles. Vous pensez, comme notre ami Freddy de Lubumbashi, qu'il faudrait des structures de soins plus proches de la population, équipées en médicaments, ravitaillées, qui pourront aider effectivement la population à avoir les médicaments plutôt que recourir aux vendeurs. Mais il faut une prise de conscience et une volonté pour arriver à faire tout cela. Merci beaucoup. Franck, docteur Richard, vous êtes à Kinshasa et monsieur Daniel Alumbashi, vous êtes un pharmacien, vous restez en ligne, on va revenir à vous le temps d'écouter notre auditeur. Je rappelle encore, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gestion du secteur pharmaceutique, que ce soit au niveau de la fabrication, de l'importation, des commercialisations de médicaments? 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Clément Otegi, vous avez suivi nos auditeurs. Hein. Je regroupe, je peux dire ainsi, leurs préoccupations d'abord en termes de l'organisation au niveau du pouvoir public qui doit assurer vraiment le contrôle de ce qui se fait sur le terrain. Vous avez évoqué cela. Il y a des questions par rapport aux normes. Hein. Quelles sont les normes pour arriver à ouvrir une pharmacie? Ça a été posé aussi par un auditeur. Mais il y a aussi le problème de l'interférence dans la gestion de ces secteurs. Si on devient inefficace, c'est aussi parce que les auditeurs se demandent, mais qui contrôle, qui fait quoi? Quelle est la place du ministère de l'Environnement? Quelle est la place des affaires économiques? Le fonds de promotion de ceci? Tous ceux qui entrent en ligne de compte quand on a déjà une structure et qui viennent percevoir, c'est une question qui a été posée. Mais les auditeurs ont aussi pensé qu'il faudrait avoir de grands dépôts attachés à des hôpitaux, ce qui peut résoudre aussi les problèmes de la prolifération de ces boîtes de vente, si on ne peut pas utiliser les termes pharmacie.
Oui, merci pour la parole. Je crois que je n'y reviens pas sur toutes les analyses qui ont eu trait à, disons, à la description du dysfonctionnement de l'État et peut-être les faiblesses du pouvoir public. Moi-même, je suis agent de l'État, donc vous comprenez que j'ai l'obligation de réserve par rapport à la question. Dans un forum organisé par l'État, je pourrais, mais néanmoins, je pense que l'analyse est correcte. Il y a des problèmes de dysfonctionnement, il y a des problèmes du médicament qui n'arrive pas jusqu'au fin, parce que l'État a aussi le devoir d'assurer la santé, et la santé passe aussi par les médicaments. Donc là, on n'y revient pas. Mais par rapport à cette petite préoccupation, cette suggestion, je pense qu'il y a lieu de revenir si un ou l'autre mot qui était placé ailleurs.
Ouais.
Donc, monsieur Frédéric de Lumbashi, il a dit, bon, c'est pas ce qu'il appelle pharmacie. Je crois que chaque fois que j'ai dit pharmacie entre guillemets.
Entre guillemets, oui.
Donc c'est pour dire que ça, ce n'est pas de la pharmacie. La pharmacie, elle est spécifiée dans des arrêtés. Nous avons l'arrêté 01 qui est encore en vigueur, qui spécifie ce qu'est une pharmacie, quelles sont les conditions d'ouverture, quelles sont les conditions de superficie, les conditions disons du matériel de votre devoir à la pharmacie, les conditions d'ouvrage, tout ça c'est dans l'arrêté. Et même par rapport au monsieur, je prends toutes les questions comme ça, par rapport au monsieur qui demande qui peut se rendre à la pharmacie, c'est un malade. Donc il n'y a qu'un malade qui peut aller à la pharmacie. Et que faire pour ouvrir une pharmacie? Pour ouvrir une pharmacie, nous avons peut-être la loi la plus laxiste du monde, parce que partout au monde, à ma connaissance, ne peut ouvrir une pharmacie qu'un pharmacien. Aller même en face ici à Brazzaville, il n'y a qu'un pharmacien qui ouvre, et c'est ça même le combat de la corporation de pharmaciens. Ben moi ici je parle en tant qu'agent de l'État, mais nous avons une loi que les pharmaciens des Congo estiment la plus généreuse, où on dit tout homme d'affaires, toute personne qui a de moyens peut ouvrir une pharmacie pourvu de se conformer à la condition fondamentale qui est que cette pharmacie soit...
répondre aux normes.
Non, soit d'abord gérée par un pharmacien. Ça, c'est la condition de base.
Mais là, déjà, il y a un problème.
La condition de base. C'est-à-dire, en fait, on a hérité ça de la loi belge, où la loi belge a toléré qu'il y ait des hommes d'affaires qui ouvrent des pharmacies, mais la gestion de cette pharmacie est confiée à un pharmacien. Donc, moi, je pense que s'il y a la bonne volonté, c'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre, les sociétés ouvrent les cabinets médicaux. Ce ne sont pas les petits frères de ses associés qui gèrent. Ce sont les médecins qui gèrent. Mm-hmm. Même si peut-être du point de vue financier, on a placé les leurs, mais la gestion, tout ça, c'est le médecin. C'est la même chose qui devait être. Alors, dès lors qu'on a un pharmacien, on remplit la condition essentielle. Maintenant, il y a maintenant des conditions, il y a d'autres conditions. Par exemple, qu'il faut suivre souvent une procédure. Quand tu as ton pharmacien, tu viens auprès de son pharmacien, va d'abord auprès de l'inspection provinciale, demander ce qu'on appelle l'autorisation de demander l'avis d'installation ou l'avis d'implantation. Mm-hmm. Il dit, moi, je suis pharmacien, je vais m'implanter à tel endroit. Parce que normalement, il y a des conditions qu'on a données sur les distances qui doivent séparer deux pharmacies et les conditions par rapport au prolata de la population. En ville, par exemple, on dit une ville, c'est peut-être pour 10 000 habitants. Mm-hmm. C'est que dans un rayon de 10 000 habitants, on ne peut pas trouver plus de deux pharmacies. Et ou alors dans une distance de 500 mètres. Donc, faut pas qu'une pharmacie soit, des pharmacies soient côte à côte ou bien face à face, non. Donc, voilà, ce sont les conditions qu'il faut remplir. Alors, quand tu viens, tu dis que je vais ouvrir ma pharmacie, l'inspection urbaine descend pour vérifier si elle est où. Mais avant de descendre, l'inspection urbaine interroge l'ordre des pharmaciens pour savoir si son pharmacien est en règle. Parce que il y a une loi sur le site de la pharmacie qui dit que nous ne payons pas la pharmacie s'il n'a de tenter d'un diplôme de pharmacien être en règle avec être affilié au tableau de pharmacien. Voilà. Ces étapes finies, lorsqu'on vous dit que c'est OK, à ce moment, vous constituez votre dossier, le dossier évolue normalement, vous payez des frais, et puis après le paiement des frais, maintenant, vous pouvez, disons, améliorer votre pharmacie et commencer à fonctionner. C'est comme ça que ça doit se passer et c'est comme ça les 100 pharmacies qui ont été ouvertes. Et je dis bien encore beaucoup plus dans le passé, la pharmacie, on était obligé, on demandait à d'autres administrations de n'agir dans la pharmacie que lorsque la pharmacie est régulièrement autorisée. Mm-hmm. Mais avec le temps, cette disposition a disparu, ce qui fait que aujourd'hui, dans certaines provinces, la pharmacie, entre guillemets, est aussi source de donc c'est un contribuable qui doit assister à l'augmentation des recettes. Vous comprenez un peu les restes. Mmh. Alors par rapport à d'autres questions, il propose que les médicaments soient dans les hôpitaux.
Oui, si on peut avoir des circuits officiels de distribution de médicaments.
Oui, mais ce circuit ne remplace pas la pharmacie. Ce circuit ne remplace pas la pharmacie. Ah, je veux bien, monsieur, c'est le monsieur de Lubumbashi, c'est l'avocat de Lubumbashi, il est là, mais il sait qu'à Lubumbashi, je ne fais pas la publicité, il y a la pharmacie bien-être, il y a la pharmacie de Takizala qui sont là. Ce sont des pharmacies qui sont dans des standards internationaux, qui peuvent jouer à la population. Le problème, c'est que l'autorité provinciale, l'autorité nationale, prennent son courage, comme on les prend maintenant avec les colonnats, on les prend avec tout ce qui rend la ville un peu moche là. On brise les étagères qui sont aussi la route, toutes ces dames qui préparent les malais. On doit aussi faire la même chose. Parce que ces pharmacies, entre guillemets, c'est même le prolongement ou bien la source, ça cache la criminalité pharmaceutique. Mm-hmm. C'est ça le vrai problème.
Il y en a l'intérieur où on commence à piquer des gens.
Il faudrait, pas seulement à l'intérieur, il faut qu'on comprenne tout cela. Parce qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas tous ces marchands des pirates dans la pharmacie, allez par exemple, permettez-moi de citer quelques pharmacies, ici à Kinshasa, vous ne retrouverez pas sur les pharmacies de la Gombe ici, où les pharmacies sont là, que ce soit chez Venus, que ce soit chez Santémètre, ou bien chez la pharmacie qui est là sur l'immeuble à son effet là-bas. Vous ne pouvez pas voir qu'il y a un marchand de la pharmacie venir pour proposer les médicaments là-bas, parce qu'il sait qu'il n'aura pas d'audience. Mais on peut aller facilement à la cité. Moi, les gens peuvent. À un moment, quand on a fait l'inspection, il y a 20 ans, nous avons arrêté les gens qui faisaient des sirops sur base de l'ité. Ils imitaient, il y avait des colorants, je ne sais pas comment ils attrapaient les études de ce laboratoire, ils fermaient. Mais leur lieu de prédilection, c'était où? Dans les communes, disons qu'on appelle semi-urbaines là-bas.
Mais vous comprenez? Il y a même au grand marché, on a vu. Voilà. Des gens qui vendent des médicaments sur des étalages.
C'est du pouvoir de l'autorité publique. Mm-hmm. Ces gens, ils perturbent l'ordre public. Ils doivent être arrêtés. On doit les mettre à dedans de lui. Alors je continue.
Un peu rapidement aussi pour compléter les autres, oui.
Oui, par rapport, un mot par rapport à la question du parlement Genofa, je crois que vous avez donné une réponse aussi qui entre dans les arcades du droit. Et je reviendrai sur la même chose, pardon, je ferai deux petites remarques. La première remarque, c'est que nous devons comprendre que nous sommes dans le domaine de la pharmacie, il faut parfois faire attention.
Ouais.
Et ce qui s'est passé, ce qui se passe, à un certain moment, parfois il y a de la précipitation dans beaucoup de déclarations, même des officiels, et parfois la presse est victime de cette précipitation. Je vous dis, dans les mécanismes de la pharmacie, qui sont mécanismes mondiaux, un établissement pharmaceutique régulièrement autorisé, un laboratoire régulièrement autorisé, il peut lui arriver qu'il rate sa préparation.
Mmh.
Et lorsque sa préparation rate, comment il peut rater sa préparation? Ça dit par exemple que bon, le jour du conditionnement, au lieu d'avoir 10 plaquettes, dans une plaquette, d'avoir 10 comprimés, on trouve 8. La personne qui est habituée à prendre ses médicaments constate ça. Il doit faire ce qu'on appelle une plainte du marché. Il doit remonter l'information jusqu'au niveau du fabricant. Le fabricant doit mener des enquêtes. Et dans certains pays, ces plaintes sont allées jusqu'au niveau de la mort des individus. Mais il n'y a rien de plus difficile que de faire ce qu'on appelle en pharmacie l'imputabilité. C'est très compliqué. C'est vrai, les gens disent que non, il y a eu des substances soporifiques. Mais nos amis, ils prétendent, ils ont des résultats, des analyses faites ici. HPLC, c'est le seul moyen d'analyser l'aspect du paracétamol.
Mm-hmm.
C'est le seul moyen d'analyser le paracétamol, c'est le HPLC. Ce moyen, il y a quelques mois, les gens ne l'avaient pas. Et ils en ont. Et je pense que le ministère en a mené
ça
ailleurs.
Avec ça.
Alors maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Est-ce que ce sont des questions qu'on se pose? Nos amis qui déclarent la substance soporifique, on a observé si quelle échelle. C'est a-t-on pris soin de s'intéresser à tout ce que les gens ont consommé pendant la journée en termes d'aliments ou en termes d'autres médicaments?
Mm-hmm.
Parce que si quelqu'un est malade, le paracétamol en lui seul n'est pas un médicament. Cela suppose que cette personne doit avoir pris une autre chose aussi.
C'est-à-dire que la recherche doit être étendue.
Non, pas la recherche doit être étendue, mais d'abord, nous avons aujourd'hui au niveau de ce pays, ce qu'on appelle le Centre National de Pharmacovigilance. S'il n'y a qu'elle seule qui a les compétences scientifiques à faire de l'imputabilité. C'est-à-dire déclarer effectivement qu'il y a un lien entre la prise de ce médicament et la manifestation qu'on a observée.
Mm-hmm.
C'est pourquoi, moi, je pense que on est allé trop vite en besoin. Le pharmacien, bon, je pense que je ne crois pas tellement que ce qu'on veut imputer au pharmacien, il en est responsable.
Parce voilà, c'est pourquoi nous avons voulu.
Le pharmacien inspecteur lui-même sait très bien qu'il doit laisser un peu de temps à ce laboratoire de mener les investigations. Et lorsque le laboratoire termine les investigations, il dépose sur la table du ministère de la Santé qui va observer. Si cette investigation semble, les conclusions semblent être correctes, on peut dire OK. Et dans les cas d'espèce, c'est quoi? C'est qu'il doit y avoir une commission de pharmacovigilance qui doit déterminer effectivement s'il y a imputabilité. Mais à ce stade-là, je pense que dans beaucoup de provinces, il y a des mesures qui sont un peu excessives, qui s'étendent, parce que dans les mécanismes de la pharmacie, vous ne pouvez étendre ce qu'on appelle la recherche sur des lots similaires que lorsque vous avez des assurances prouvées et documentées que le lot ici a failli et a causé problème. À ce moment, on peut ouvrir des enquêtes à d'autres lots similaires. Mais ici, je pense que il y a des liens de dire qu'on est allé un peu trop vite en besogne.
Mm-hmm. C'est pourquoi on a dit aux auditeurs qu'on va attendre, on aura des résultats, des précisions qui pourront être aussi diffusées, bien sûr, sur Radio Capi. À ces niveaux-là, on arrête les débats autour du paracétamol Xenufa. À ces niveaux-là, avec toutes ces explications que vous avez données, merci beaucoup pour ces précisions. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde et félicitations à tous ceux qui ont parlé avant moi, je suis à vous.
Oui, et vous, en tant que médecin, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on mette de l'ordre? Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, les structures, entre guillemets, appelées les pharmacies, entre guillemets, se multiplient dans nos quartiers. Le problème semble rester le même depuis que nous avons fait autant d'émissions sur ça. Mais concrètement, qu'est-ce qui doit être fait?
Oui, d'abord, je félicite votre radio qui s'intéresse à ce genre de problème. Deuxièmement, je vous remercie parce que votre radio m'avait fait participer à une émission de grande importance autour de l'opération coup de poing qu'on avait menée ici à Kinshasa contre les médicaments qu'on a étiquetés de vrais faux médicaments que les humains consommaient. Alors, ce qu'il faut faire, je crois, c'est de ne pas être dans un système de perpétuel recommencement. C'est comme si quand il y a un sujet à traiter à la radio Capi, on trouve que le pays, c'est comme si le pays est né aujourd'hui, on commence tout aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les normes existent. Les normes sont revues au jour le jour par rapport aux besoins et aux progrès de la science. Mmh. Mais chez nous ici, les normes ne sont pas suivies. Je félicite monsieur le pharmacien, notre invité, parce que il a, excusez-moi de dire ce que je vais dire, il a vomi toute la science qu'il a dans son cerveau, en lui, et je ne sais pas si on l'a compris. Les normes sont à respecter. Mais quand on trouve dans un système, le bourgmestre est vendeur de médicaments, sa petite sœur vendeur de médicaments, je ne sais pas qui est un homme politique, parlementaire du Sénat ou parlementaire de l'Assemblée nationale, vendeur de médicaments. Et puis, il crée des obstructions à l'avancement de l'application des normes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. C'est ça la grande question. Allô?
Oui, docteur Richard, ça dit qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que l'État prenne les responsabilités, comme l'a dit notre invité. Il
Mais
faut arrêter, il faut fermer.
Nous voyons, voyons l'État exceller en matière politique pour réprimer à gauche ou réprimer à droite. Amnistie à gauche, amnistie à droite. Mais ce qui est fondamental, les gens ne regardent pas. Parce qu'un produit mal conservé, comme nous voyons ailleurs à gauche, à droite, devient un poison. Mm-hmm. Je crois que monsieur le pharmacien que je salue et je félicite a bien dit ça. Un produit qui a perdu sa qualité par rapport à son but, à sa mission, qui est exposé au soleil, devient un poison. Mm-hmm. Ça va créer d'autres maladies. Qui sont des maladies qu'on ne peut pas soigner avec les médicaments.
Voilà, merci.
C'est un empoisonnement.
Voilà, merci, merci beaucoup, voilà. Docteur Richard. Merci. Je crois que le grand problème, vous l'avez dit, c'est qu'il faut respecter les normes. L'État doit faire expliquer la loi dans ces domaines pour qu'on puisse vraiment mettre fin à tout ce que nous regardons sur terrain. Merci beaucoup. Nous allons écouter Daniel qui est à Lubumbashi, qui lui-même est un pharmacien. Daniel, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Pierrot.
Oui, c'est Monsieur Pierrot. On vous écoute.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs
voilà.
De la radio de la
Bay. Vous avez suivi les uns et les autres. Vous travaillez, vous êtes pharmacien. Les domaines, on voit le secteur comment il est envahi et tout ce qui arrive. Alors concrètement, vous, qu'est-ce qui doit être fait efficacement pour qu'on puisse mettre de l'ordre dans la gestion de ces secteurs et éviter qu'ils soient porteurs de la mort plutôt que de la vie, comme le disait tout à l'heure Docteur Richard.
Monsieur Pierrot, de prime abord, je commencerai par vous remercier, vous, la Radio Capi, vous organisez des missions très, très intéressantes.
Merci.
Mais parfois, nous avons l'impression que nos autorités ne suivent pas. Et ici, moi, je pense que c'est un appel que nous lançons à nos autorités pour pouvoir écouter la population au travers de cette émission par nos auditeurs.
Mm-hmm.
Monsieur Pierrot, moi, en tant que pharmacien de formation, j'ai l'impression que le pouvoir public ne nous soutient pas, ne soutient pas le pharmacien. Mm-hmm. Comment? La loi est claire. Je pense que votre invité a mentionné les grandes lignes pour pouvoir ouvrir une pharmacie. Et ne peut ouvrir une pharmacie qu'un pharmacien. Et il a bien dit, le pharmacien, pas celui qui a des moyens. Une personne peut avoir ses moyens de fonds. Il prend le pharmacien qui doit pouvoir ouvrir la pharmacie. Parce que l'ouverture de la pharmacie exige ce qu'on appelle l'autorisation d'ouverture. Et l'autorisation d'ouverture n'est remis qu'aux pharmaciens.
Mmh.
Alors, la loi est claire sur ces sujets-là. Et ne peut appliquer la loi que le pouvoir public, comme je l'ai dit dans mon propos, nous ne sommes pas soutenus. Comment? Si la loi est claire et la loi dit que ne peut détenir une arme que le service de sécurité, le militaire, le policier. Alors, si moi, individu, que je suis la civile, on me retrouve avec une arme,
je serai arrêté.
Oui,
exact. C'est ce qu'est dit la loi. Mm-hmm. Et pire que la loi dit qu'elle ne peut détenir une pharmacie, qu'un pharmacien ne peut livrer et toute la chaîne de la production, de la conception, de la production, et même au niveau de la livraison du médicament, au niveau de la pharmacie, exige la présence du pharmacien. Et c'est ce qu'est dit la loi. Et si tel est le libellé de la loi, on ne doit qu'appliquer cette loi.
Mm-hmm.
Et moi, nous comprenons que nos autorités ne s'intéressent, par exemple, à la détention des armes, comme j'ai pris comme exemple de l'arme.
Oui.
On peut m'arrêter que quand j'ai une arme ou quand les individus ont des armes, parce qu'on suppose que les individus, quand ils ont des armes, ils vont tuer la population. Et après avoir tué la population, ils auront les pouvoirs politiques. Et là, ils s'intéressent à cet aspect des choses. Ce qui fait que si vous me tirez le pierrot et la main, vous êtes journaliste, quand on vous trouve avec une arme, on va vous arrêter. Moi, Daniel, je suis pharmacien. Quand on me retrouve avec une arme, mm-hmm. on va m'arrêter. Mais les armes qui se retrouvent sur toute l'étendue de la République, dans ce qu'on appelle les kiosques de la mort, entre guillemets, qu'on appelle pharmacie, on est en train de vendre des médicaments qui d'autres sont déjà piratés, ça, on ne voit pas tout simplement parce que les gens là qui vendent, qui sont en train de tuer les gens, qui sont en train de répandre la mort, par après, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir politique. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a cette différence dans ce qui concerne l'application de la loi.
Voilà.
Et
rapidement, monsieur, oui.
Ici à Lubumbashi, moi je suis à Lubumbashi, il y a 2 ans de cela, il y avait une mesure qui était prise par le ministre provincial de la Santé ensemble avec l'inspection des pharmacies pour pouvoir fermer toutes les pharmacies qui ne répondaient pas aux normes. Et à ce moment-là, on a vu notre les gens prendre conscience de l'ampleur de la situation. Et moi, en tant que pharmacien, j'étais contacté par plus de 10 pharmacies pour pouvoir les aider afin de respecter les normes qui sont exigées. Et quand cette opération était lancée, il y a eu des trafics d'influence. Les trafics d'influence parce que c'était la pharmacie de tel, c'était dans la pharmacie de tel, et dès lors, on avait abandonné cette opération.
Voilà,
et les pharmacies qui étaient fermées à cette époque, on les avait ouvertes. Pour quelle raison? Est-ce que ces pharmacies qu'on avait fermées parce qu'ils ne répondaient pas aux normes? Et quand on les a ouvertes, est-ce que c'est parce que ces pharmacies répondaient aux normes? Non.
Voilà,
non.
Voilà autant de questions, monsieur Daniel, parce que là, on est obligé d'écouter deux auditeurs pour conclure avec notre invité. On n'a pas assez de temps, mais merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez insisté que l'État doit aider le pharmacien. Je retiens une chose, il faut respecter la loi. Si on dit que ça doit être ouvert par le pharmacien, il faut que la loi soit respectée, pas des trafics d'influence. C'est l'unique façon qu'il faut faire pour résoudre les problèmes dans le secteur. Merci beaucoup de cet appel de Lubumbashi. On écoute rapidement Daniel qui est à Kisangani et la Gilo Academy. Hein, à chacun 40 secondes parce que là, on va conclure avec notre invité. Daniel, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Gérard. C'est
Pierrot. Oui, Daniel, c'est Pierrot. Vous avez suivi...
Oui. Bonjour, Pierrot. Bon. Bonjour à l'invité.
Merci.
Et Daniel, c'est Kisangani.
Daniel, vous avez suivi les uns et les autres. En 40 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous à Kisangani dans ce domaine? Qu'est-ce qu'on peut retenir en 40 secondes?
Oui, hier, mes professeurs ont parlé l'essentiel, mais ce que je veux pouvoir ajouter, c'est que notre État pourrait s'impliquer sur ce service afin de sécuriser le pharmacien. Chez nous, les pharmaciens se produisent comme des boutiques et il n'y a pas vraiment une population qui la consomme. Nous n'avons pas vraiment la capacité de distinguer où est-ce qu'on pourrait acheter, où est-ce qu'on ne pourrait pas acheter, parce qu'il y a de nombreuses pharmaciens. Je ne sais pas si les services de contrôle au moins des pharmaciens qui sont dans nos quartiers et dans d'autres villes, cela pose un peu de problèmes parce que nous savons bien les malheurs arrivent. Mm-hmm. Nous, c'est vraiment la population
voilà.
qui les consomment ces produits.
Merci beaucoup, Daniel. Vous dites la population ne sait pas à quel sens se vouer, où se trouvent les bons, où se trouvent les mauvais. C'est qu'il faut que l'État puisse aider la population. Rapidement, la Guillois, vous êtes à Calémie. Est-ce que dans 30 secondes, vous pouvez donner votre point de vue rapidement pour que l'invité puisse conclure cette émission, la Guillois?
Malheureusement, Pierrot, l'État nous fait du mal. Merci, je peux conclure dans 30 minutes.
30 secondes.
Dans 30 secondes.
Mm.
Je pense pour le contrôle, pour mettre de l'ordre dans la vente des produits pharmaceutiques, cela pourra se faire à 4 niveaux. Le premier niveau, il s'agit de la 3e division du ministère de la Santé, qui est chargée de régularisation des médicaments. Le deuxième, il s'agit de l'OCC, à travers son labo-là. je ne sais pas si c'est là-bas est tellement très spécifique.
Oui, la Guilo, mais là, on a... Oui, mais là, on risque d'aller au-delà des 30 secondes rapidement, la Guilo.
Oui, il s'agit des inspections provinciales. Et le quatrième niveau, il s'agit aussi de ces commerçants des 10 produits qui sont aussi fidèles. Là, nous allons aussi bien avoir des produits
merci,
qui sont consommables.
Merci beaucoup, Laguillois. On ne saura pas aller plus loin. On revient à vous, monsieur Clément Otéji. Vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot? Ce n'est pas la première, la dernière fois. C'est une émission, on peut en revenir autant de fois. Mais pour aujourd'hui, en un mot, parce qu'on doit vraiment terminer en une minute et demie, qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot?
Oui, brièvement, je pense que si nous nous transposons aujourd'hui en France, nous ne trouverons pas dans le circuit de distribution des médicaments français tous ces genres de médicaments. Parce que le circuit de distribution est clair, il est tracé par la loi et tout le monde le respecte. Et c'est là où, à un certain moment, à chaque occasion que j'ai surtout dans d'autres structures que je dirige en dehors de la pharmacie ou du ministère, j'interpelle notre parlement qui, à un certain moment, donne l'impression d'une abondance de production législative, mais on dirait que les sujets qui sont en train de voter parfois sont des sujets d'intérêt mineurs par rapport aux problèmes réels de notre société. Mm-hmm. Le problème du médicament, c'est un problème réel de la société. Mm-hmm. Si vous ne vous rendez pas compte, certains sorciers, certains jeunes de prière que vous faites dans vos familles, c'est à cause du médicament. Et la solution n'est pas... Le problème est complexe, mais il est soluble. Pour être soluble, il faudrait seulement une volonté politique de l'État pour qu'on vote quelques lois. Parmi ces lois, il y a d'abord la loi du monopole de l'exercice de la pharmacie, mm-hmm. par le pharmacien, le seul pharmacien, une loi qui crée l'agence du médicament comme serre autorité ayant compétence sur le médicament et l'établissement pharmaceutique, et en fait, tracer un circuit de médicaments qu'il faut faire respecter. Donc, en dehors de ça, si ce n'est pas moi, vous inviterez encore un autre pharmacien, peut-être même dans 10 ans, on va tourner autour du même sujet.
Merci beaucoup, monsieur Clément Otéji, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission que vous allez retrouver ce soir à 20h03 heure de Kinshasa en rediffusion. Merci et surtout passez un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.